Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
C'est moi. Bonsoir, bonsoir à la régie.
Bonsoir.
Bonsoir Bernard Dornard.
Bernard.
Et Boris.
Et Boris, bonsoir, oui,
à toutes,
ce soir.
Bonsoir à tous. Bonsoir à.
Ah, comment s'appelle-t-il déjà?
Ah, merde. Ah,
ben
c'est.
Je viens de dire bonsoir à Boris, je suis à côté de toi.
Je t'aime plus, Bernard.
C'est Jeffrey Jordan qui est avec
oui,
nous. Vous avez reconnu sa voix.
Oui, bonne année à tous et à toutes.
Et oui, parce que tu n'étais pas revenu nous voir depuis.
Depuis un moment déjà.
Mais
oui.
Tu es un homme très occupé, c'est pour
c'est
ça.
Vrai.
Je voudrais signaler à tous nos auditeurs et nos auditrices qui seraient surpris de ne pas entendre la voix, la douce voix de Lolo non. En train de se plaindre que le jingle est trop macho. Mmh. Elle est alitée.
Ah oui.
Elle est malade.
Elle est malade.
Elle est au fond de son lit.
On lui fait un gros bisou si
voilà,
elle nous entend.
J'espère qu'on la retrouvera parce qu'au fond de son lit, elle est perdue.
Elle est si petite.
Voilà, donc si tu nous écoutes, Laurence, nous t'embrassons. Voilà, nous embrassons tout le monde par la même occasion, tous les auditeurs, toutes les auditrices, tous
oui.
Ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors ce soir, on va avoir un peu de pain sur la planche.
Ah.
Tu vois, mon petit Jeffrey.
Bah, toi qui avais faim, c'est,
voilà,
c'est super.
Oui, ça tombe bien. Donc toi, Jeffrey, tu vas être là tout à l'heure pour. Enfin, tu vas être là dès maintenant d'ailleurs, mais tout à l'heure, tu interviendras parce que ta chronique va porter aujourd'hui sur l'actualité. Tu t'es un penché sur l'actualité.
Oui, c'est.
Sans tomber.
C'est peu dire, penché sur l'actualité.
Avec
c'est...
un regard, ton regard à toi.
Voilà.
Le regard oblique, donc, non, je rigole.
Un peu. Je ne bouge pas encore. Hein.
Voilà. De toute façon, on ne peut pas en juger, nos auditeurs ne peuvent pas en juger. Pour en juger, il faut aller te voir en spectacle
ah oui,
ou regarder
scène.
La télévision, mais nous en reparlerons plus tard.
D'accord.
Ce soir, on aura en première partie d'émission un invité qui s'appelle Sébastien Monod, qui est un écrivain. Et en attendant que nous l'appelions, nous allons écouter une petite musique. Je voulais te dire une chose. Tu
oui.
sais, Sébastien Monod, c'est un écrivain qui a reçu un prix récemment.
Ah.
Ah oui, un prix pour toute son œuvre. Et c'est de ce prix aussi que je vais parler à la suite de la chanson. Hein?
Qu'est-ce que c'est qu'on écoute alors?
Alors écoutez, alors c'est Étienne Dao et Paul Tatou, c'est justement à la demande de notre invité téléphonique, je précise donc, si je ne l'avais déjà fait, qui aime bien Étienne Dao. Donc on a prévu un petit live de Étienne Dao. On aime
super.
Bien aussi Étienne Dao.
On commence bien la soirée.
On m'applaudit en plus.
Bravo
merci,
Gérald.
Bon aimer,
être aimé, quel bonheur. Et pourtant, comme tout cet éclat éterne, auprès de la félicité remplie de tourments, que l'on éprouve en adorant une femme qui fait de l'homme son jouet, en devenant l'esclave d'une créature tyrannique qui vous piétine impitoyablement.
Audace, indécence exigée. Blocus, moi qui souhaite s'immiscer. Ce nightclub où le jazz a brisé. Réticence pour qui souhaite s'y glisser. Par le tempo possédé sur la piste verglacée. Par le tempo possédé, je l'ai vu danser. The night à l'admission privée entasse le foule électrisé. Par le tempo possédé sur la piste verglacée. Par le tempo possédé, ma Suzy dansait. À l'encre bleue dessinée. Là sur sa peau gravée, un tatou bleuté. Audace, indécence exigée. Blocus, moi qui souhaite. décidé, je pourrais pas lutter. Mais ce mot est à vous. Ton épaule est à tout. T'es tout à moi. Tout à moi.
Discuter avec Gérald. Et je me disais d'ailleurs vivement un duo Étienne Dao, Mylène Farmer. Ah, bon, le problème, c'est qu'on n'entendrait rien, quoi. C'est ouais. Et là, je me suis mis à dos tous les fans.
De Étienne Dao et de Mylène Farmer.
Et de Mylène Farmer.
Donc, nous avons notre invité en ligne.
Ça y est, il est au téléphone. Allô, allô.
Oui,
tu... oui.
Alors, on nous a remis l'antenne un peu subrepticement. On a été surpris avec Jeffrey.
On disait que Bernard était devenu un hipster. Il a laissé pousser la barbe.
Oui, Bernard, c'est notre technicien.
C'est un très bon choix de style, de musique, hein, que vous avez fait là.
Oui, mais un choix qui, voilà, un choix qui m'a été guidé, puisque c'est vous qui m'avez dit, moi j'aime bien Étienne Dao, ce serait bien qu'on puisse écouter un morceau d'Étienne Dao. Donc voilà, on s'est dit, Étienne Dao, nous aussi on aime bien, hein, quand même. Donc,
c'est vrai.
Parfois
beaucoup.
Un peu.
On a bien commencé l'émission.
Voilà.
Qui donc, avons-nous au téléphone, mon petit?
Alors nous avons Sébastien Monod,
qui est,
comme je le disais en début d'émission, écrivain.
Écrivain.
Mais je crois que votre profession, c'est journaliste, ou vous avez été journaliste, non? Je me trompe, ou... je
fais une petite bio. Oui, mais j'ai déjà fait plein de métiers.
Ouais.
Et mon premier métier était journaliste, rédacteur, mais aussi secrétaire de rédaction. Donc, c'était dans une vie antérieure, j'ai fait d'autres choses depuis.
Pourtant, vous êtes jeune, vous avez déjà vécu tant de vies.
Oui. Oui, mais j'aime bien quand ça avance vite et quand les choses, quand des choses se passent, quand des bonnes choses se passent.
Vous n'avez pas été moniteur de colo? Mono, non? Bon, d'accord. Ok. Allez, on y va.
Mais je n'ai pas non plus la stéréo, donc.
Excellent.
C'est du haut niveau ce soir, donc.
Le niveau est très élevé. Ouais.
Donc, la profession de journaliste, maintenant, c'est fini. Vous faites autre chose, écrivez. Alors, si je vous ai demandé d'intervenir à l'émission, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il est intéressant que nos auditeurs et nos auditrices puissent vous connaître, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, ça va être l'occasion ce soir de vous présenter un petit peu, vous et votre œuvre. Votre œuvre, d'ailleurs, qui a reçu un prix, justement, récemment, mon cher Jeffrey. C'était le 6 janvier, je crois, de début de cette année. Il a reçu, alors, carrément, le prix pour l'ensemble de votre œuvre. C'est pour ça que c'est impressionnant, parce que l'ensemble de votre œuvre, ça a l'impression d'avoir affaire à un écrivain style, je sais pas, moi, Jean-Paul Aron, tu sais, à la fin de ses jours. Mais non, on entend...
Victor Hugo, non.
Oui, voilà.
Non, je finis dans des sons, ni je ne sais qui.
Quel âge avez-vous, Sébastien?
Ça ne se demande pas.
Oh. Ça ne se demande pas, mais non.
Si vous avez une jeune carrière, comme dit Gérald, ça ne devrait pas être indélicat à dire.
Un jeune quadra, on va dire.
Ah, bon, ça va.
Oh, ça va.
C'est déjà toujours plus jeune que Gérald.
Oh. Moi, je suis plus jeune que Bernard, par contre.
Mais je tiens aux jeunes devant le quadra, par contre.
D'accord. Bon, en tout cas... vous avez été récompensé pour l'ensemble de votre œuvre par un prix, par le jury du prix du Roman Gay, mon cher Jeffrey. Je ne sais point si tu en as entendu parler.
Roman Gay.
Voilà. C'est un prix qui est remis depuis 2013 par une maison d'édition belge, si je ne me trompe, belge, ça s'appelle les Éditions du Frigo. J'en reparlerai un petit peu après, parce qu'ils font, ils ont, comment dire, une ligne éditoriale, si j'ose dire, assez amusante, mais dans laquelle Sébastien Monod n'a rien à voir, simplement, les Éditions du Frigo ont décidé depuis 2013 de créer un prix du roman gay. Donc, il y a un jury qui se réunit, ils sont 10 membres, il y a le président, enfin, ça se fait dans les règles de l'art. Et il se trouve que pour 2015, les prix ont été remis donc début janvier, comme je disais, et Sébastien Monod a donc eu le prix du jury pour l'ensemble de son œuvre. Alors, Sébastien Monod, pour ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être... Alors, vous allez me dire si je me trompe, parce que, vous savez, je ne dis pas que des choses intelligentes, Sébastien. Et donc,
je connais à dire.
Mais... je dirais que vous êtes connu pour une série, vous allez me rectifier si je me trompe, c'est ce qui est assez connu dans la communauté gay, je dirais, c'est Heures Joyeuses.
Oui, Les Heures Joyeuses.
Les Heures Joyeuses.
J'étais un des co-créateurs de la série.
Alors c'est une série, tu as compris, Jeff et Jordan, c'est la traduction de Happy Hours. Donc on imagine que, enfin, on imagine, est-ce que c'est des brèves de comptoir? Parce que c'est vrai, Happy Hours, tu sais, c'est dans les bars, tu sais.
Oui, oui, ah bah oui, je connais bien les Happy Hours, moi.
Mais toi, tu traînes après les Happy Hours, Jordan.
Je fais les afters, moi.
Voilà. Non, là, c'était beaucoup le before, ce qu'on appelle maintenant. D'accord. Les before.
Ouais. Et donc, en l'occurrence, pourquoi avoir donné le nom de Heures Joyeuses à cette série? Parce que c'est une série... de livres.
Tout à fait, il y a eu 9 tomes en tout. Et j'ai coécrit le premier et travaillé un petit peu sur les suivants. Et donc voilà, c'était une aventure de copains, de trois amis rouennais. Et on avait envie de trouver un équivalent littéraire de Friends, enfin ces séries de potes qui aiment bien se retrouver dans un café qui est par définition un lieu convivial, voilà, à l'heure de l'apéro, d'où le nom Les Heures Joyeuses. On voulait pas Happy Hours, on voulait franciser tout ça. Et puis marquer qui est aussi une marque de fabrique, quelque chose de nouveau. Donc, Happy Hours, tout le monde s'est marqué partout, surtout toutes les ardoises de bistrot. On voulait se démarquer un peu de ça quand même.
Donc ça se passe dans un lieu unique, toujours
le
même.
Paradis.
Paradis.
Mais ce qui est drôle, c'est que joyeux, ça se dit gay aussi en anglais. C'est marrant.
Aussi, oui.
Tu as un commentaire pas forcément utile.
Oui.
Ça mélange entre les brèves de comptoir et Queer as Folk un peu.
Il y a plusieurs grilles de lecture à tout ça.
Ouais. Donc, on retrouve des personnages récurrents, des personnages qui se rencontrent dans le lieu, au paradis, qui se rencontrent au paradis. Et c'est une occasion de tisser des liens entre eux, et puis leurs histoires s'entremêlent. Comment ça se passe? Moi, j'aime bien les histoires qui s'entremêlent en général. Donc, il y a plusieurs personnages qui arrivent comme ça, et comment ça se passe alors?
Voilà, c'est pas mal quand ça s'entremêle, en effet. C'est 5 personnages, 4 garçons et une fille. Bon, au départ ils sont pas 5, il y a un petit groupe, et puis ils accueillent un nouveau, et puis voilà, ils sont soudés comme les 5 doigts de la main, ou comme les 4 fantastiques, ou comme les je dis n'importe quoi, mais
les 5 petits cochons.
C'était amusant de mettre ces personnages-là dans des situations un peu rocambolesques, mais toujours ancrées dans la vraie vie et dans les préoccupations de jeunes. De jeunes, ils avaient 25 ans, je crois. C'est un petit peu vieux pour moi, parce que de l'eau a coulé sous les ponts, et j'ai fait bien pas mal d'autres choses depuis. Mais il y avait cette envie, de montrer une réalité, ou maintenant plusieurs réalités, parce qu'à chaque personnage correspondait quand même un type de personnalité, une psychologie, et puis un type d'aventure. Il y avait peut-être le garçon qui ne connaissait que des déboires amoureux. C'est un type parmi tant d'autres, et on voulait développer ça sur le long terme, en donnant surtout, en confiant ces personnages-là à chaque fois à un auteur ou un groupe d'auteurs différents. Donc j'ai coécrit le premier. Par la suite, il y a eu d'autres auteurs qui se sont emparés de ces personnages-là. Et puis tout en respectant un petit peu le quand même ce qu'ils étaient, la Bible, comme on appelle ça dans dans le langage littéraire. Et ça donnait des choses différentes, mais en même temps respectueuses de ce qu'on voulait au départ. Ces cinq personnages, amis, à qui il arrive toutes sortes d'aventures et de mésaventures. Mais tout en restant drôle, c'était très important qu'on rit ou qu'il y ait un sourire à chaque page. Et j'avoue que ça a été très formateur pour moi, qui n'était pas du tout dans ça au départ, dans mes premiers écrits. Et j'ai découvert aussi quelque chose qui m'intéressait bien, c'est-à-dire les interactions entre les personnes, entre les personnages, voir dans un microcosme, dans un milieu bien précis, comment des personnes différentes pouvaient réagir en se rencontrant, sans trop choquant. Et ça continue encore aujourd'hui de me plaire. J'aime bien encore travailler la matière personnage.
Oui, alors si j'ai parlé justement des Heures Joyeuses, c'est parce que ça a été un vrai succès de librairie.
Ah oui, tout à fait. J'étais très surpris à l'époque, peut-être pas, parce que quand on est jeune, on réfléchit pas forcément à tout ça, on a envie de passer à autre chose. Mais avec le recul, je me rends compte, et surtout avec la crise du livre qui a frappé l'édition depuis 2008, sévèrement, je me rends compte que un tirage à 3000 exemplaires qui s'écoule en quelques petits mois, c'est pas mal. Et aujourd'hui, ça se voit rarement pour des auteurs inconnus. On était inconnus à l'époque de la sortie des Heures Joyeuses.
Et depuis, un peu plus connu, donc, grâce aux Heures Joyeuses. Alors, parlez-nous un petit peu de vos autres livres. J'ai vu que vous aviez écrit un recueil de poésie. Alors, est-ce que c'est anecdotique ou... Je ne me suis pas trompé, hein, j'ai bien vu. Hein. Moi, j'ai regardé la bio sur Wikipédia.
La bio, il y a un recueil. Et dans ce recueil, il y a quelques textes de... C'est pas un recueil... De mes poèmes, mais il y a plein d'autres. Partage avec d'autres poètes. C'est une des cordes à mon arc, je dirais. Ouais. J'ai commencé par ça, du reste, sérieusement, à l'adolescence, où mes premiers écrits, mon premier refuge, c'était vraiment la poésie. J'en ai écrit 150-200 poèmes. J'avais 15, 16, 17 ans. Et il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas forcément très bonnes. Il y a quelques textes qui survivent et qui sont encore forts, qui ont dépassé les années. C'est ceux-là qui figurent par-ci, par-là dans des recueils. Il devait y avoir en 2015 un recueil avec un peu plus de textes, avec une nouvelle maison d'édition. Bon, ça s'est pas fait, mais c'est encore quelque chose qui peut, pourquoi pas, se faire à l'avenir.
Et vers quel type de littérature vous êtes orienté, donc indépendamment donc des Heures Joyeuses dont nous parlions tout à l'heure, quel type de littérature peut vous être associé, je dirais?
S'il fallait me mettre dans une case, quelque chose comme ça,
par exemple, oui. On aime bien mettre les gens dans les cases.
J'aime bien, je fais de la littérature de situation, on va dire, de personnages aussi. Je le disais tout à l'heure, c'est la matière personnage qui m'intéresse. J'ai du mal à me définir autrement, je ne fais pas du polar, je ne fais pas du fantastique, je n'ai pas de choses comme ça, c'est la littérature contemporaine, parfois du conte contemporain, j'aime bien dire ça. Mais c'est réellement le personnage qui est au centre et les situations. C'est dépendant, forcément. Mettre les personnages en une situation un tout petit peu extraordinaire. Je dis un petit peu parce que si je dis extraordinaire, on va tout de suite penser que c'est quelque chose de fantastique. Mais de décaler un petit peu. C'est le décalage qui m'intéresse. Quand je sors un peu du cadre habituel, que je regarde qu'est-ce qui peut arriver.
C'est un peu comme une poupée vaudou, en fait, vos personnages.
Oui, mais de toute façon, c'est sûr qu'il y a un côté... j'ai un côté sadique avec les personnages. Je l'avoue, je l'ai dit dès le début dans la préface de mon roman Rue des Deux Anges.
Ça s'entend pas, en tout cas.
Pardon ?
Ça ne s'entend pas.
Je cache bien mon jeu.
Oui,
comme tout vrai sadique.
Comme tout vrai sadique.
C'est réellement le personnage qui m'intéresse et les situations que ça entraîne en le plaçant dans des situations différentes. Mais tous les personnages, hommes, femmes, homo, pas homo, peu importe. Ouais. C'est ça qui me...
Alors justement,
triper, on va dire.
Justement, est-ce que la thématique LGBT est prévalente, prédominante dans votre œuvre, ou c'est quelque chose d'associé avec autre chose, quoi, c'est pas ce qui prime?
Je cocherais la case numéro 2, ouais. Mais c'est la question de l'identité qui m'a toujours plu, marqué, parce que moi-même, je me suis longtemps cherché. Et peut-être que la littérature, d'ailleurs, m'a aidé à me trouver. Aujourd'hui, je pense que c'est bon de ce côté-là. Mais c'est l'identité, la quête identitaire, savoir qui on est réellement dans cette société, ce qu'on veut être aussi, ce que parfois on rêverait d'être. C'est toutes ces questions, toutes ces thématiques qui guident mon écriture, au-delà de, encore une fois, de la sexualité, de l'homosexualité, de l'hétérosexualité. Oui, il y a un côté existentiel derrière tout ça. Bon, après, il y a l'environnement, savoir qui on est, par rapport à qui, par rapport à quoi. C'est aussi beaucoup par rapport à la famille, l'entourage proche, la famille, et bien évidemment. Je me suis rendu compte, il n'y a pas très très longtemps, que beaucoup de mes textes, dans beaucoup de mes textes, figurait la thématique de la filiation, des relations père-fils ou mère-fils, ou mère-fille, mère-fils. C'était quelque chose de très très présent. C'est certainement lié à mon histoire, une fois encore. Même si je ne m'inspire pas uniquement de ce que j'ai vécu, fort heureusement, ce serait peut-être pauvre, je ne sais pas. Mais oui, la question de l'enfant par rapport à ses parents, de se trouver encore une fois...
C'est des thématiques qu'on retrouve donc de façon récurrente dans vos œuvres. Alors, néanmoins, vous avez reçu le prix, fameux prix de roman gay, enfin, pour l'ensemble de votre œuvre. Hein. Donc, il y a quand même l'aspect LGBT, l'aspect gay a été mis en avant, justement.
Tout à fait. Mais dans la population. Enfin, je respecte un petit peu aussi la réalité, ce qui est le tableau de la France, mais pas que de la France d'ailleurs, dans tous les pays. L'hétérosexualité, mais il y a aussi l'homosexualité. Donc dans mes romans, il y a forcément toujours une personne, il y a toujours une part de LGBT, puisque ça, c'est une part de la vie, de toute façon. Ce serait idiot, moi, de ne pas traiter de ce sujet, pardon. Donc j'aime bien mettre cette part, peut-être, cette part minoritaire, parfois au centre, parce que des vrais romans qui abordent les difficultés rencontrées quotidiennement par un gay, par une lesbienne, c'est peut-être pas si courant que ça dans la littérature généraliste. C'est bien de dire bah oui, ça c'est aussi une réalité, on n'en parle peut-être pas assez. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Il faut en parler. Et parfois, de façon très nette, très franche, dans des romans où c'est vraiment le centre de l'histoire. Parfois, juste en arrière-plan ou une histoire secondaire, ça arrive aussi. Et parfois, pas du tout.
Alors, ce que vous me dites, ça me fait un peu penser à une polémique qu'avait suscité donc Xavier Dolan il y a quelques années de ça, c'était en 2014, concernant, alors là, c'est un prix de cinéma, c'est le prix de la Queer Palm, donc qui attribue donc un prix, donc un jury qui attribue un prix à une œuvre présentée dans les différentes catégories du Festival de Cannes, et que ce jury considère comme ayant une importance particulière, un point de vue particulièrement intéressant sur les questions LGBT, les questions de genre aussi. Et or, Xavier Dolan avait reçu une récompense de ce jury. Et il avait, dans une interview qu'il avait accordée à Télérama, il avait expliqué, enfin il avait dit qu'il avait refusé d'aller récupérer ce prix parce qu'il le trouvait, il trouvait ce genre de prix inutile, réducteur. Il avait employé les mots de ostracisant, de ghettoisant. Ben, c'est les mots qu'il avait employés dans Télérama. Vous qui avez reçu un prix du roman gay, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette... apparemment, vous n'êtes pas tout à fait sur cette même optique. Bon, déjà, vous avez reçu le prix, donc vous n'avez peut-être pas critiqué, mais Xavier Dolan, lui, l'a fait. Il a dit, moi, je ne vais pas chercher mon prix. voilà. Est-ce que vous...
j'aime beaucoup Xavier Dolan. Oui. J'apprécie son travail.
Extraordinaire, c'est sûr.
Le jeune homme est vraiment fabuleux. Mais j'ai pas tout à fait cette vision-là, même si je suis assez contre, naturellement, l'idée de classer, de mettre les gens dans des cases, définitivement. C'est pas possible, ça se passe pas comme ça. Mais, il y a un moment, il y a un jury de X personnes qui décident de vous récompenser, de dire ce que vous avez fait, nous on aime bien, on a envie de vous le dire et de vous donner un prix. Et je trouve pas ça très très juste, très très bien de refuser ça. C'est franchement mon avis. Et il peut discuter et très longuement.
Je pense pas que Xavier Dolan ait été vexé, en fait.
Vexé.
Pardon ?
Je pense pas qu'il ait été vexé, je pense que c'est une façon de lancer la polémique, en fait, autour de son film aussi.
Oui, mais il a eu raison, parce que c'est un vrai, c'est une vraie question. J'ai pas sa notoriété et ça entre en ligne de compte quand même. Lui avait quand même déjà quelques films et quelques succès derrière lui à ce moment-là, et peut-être pouvait se permettre aussi de faire ce coup d'éclat. Je ne pourrais pas le faire pour ma part.
Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que vous aviez eu cette récompense ?
Je ne m'y attendais sincèrement pas du tout. J'espérais peut-être un prix, peut-être un prix du public, enfin du jury, ou je ne sais pas, pour mon livre sorti cette année. Mais absolument pas. Je devais être assis, je pense, j'espère, à ce moment-là, quand j'ai eu cette nouvelle, parce que oui, c'était très surprenant. Et la première réaction, c'était de voir les Césars ou les Oscars, vous savez, quand on reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière, et que je voyais Hitchcock en train, à 80, ou je ne sais plus quel âge,
c'est ce que je disais un peu, voilà, au début d'émission, c'est vrai que ça pose son homme, quand même, là, c'est sûr. Et pour vous, c'est une reconnaissance, quand même, de votre travail.
Ça veut dire déjà que j'ai quelques livres derrière moi, et quelques livres qui ont, certains ont peut-être compté. Mais c'est encore une fois, j'ai peut-être un manque d'assurance encore aujourd'hui aussi, et du coup une recherche de reconnaissance. Mais ça fait du bien. Ça flatte l'ego, ça c'est évident. Mais au-delà de ça, pour cette question d'assurance ou de ne pas être assuré, et d'un seul coup de recevoir ça, et ben là on se dit oui, quand même, t'es peut-être pas si nul que ça, ou t'as des choses à dire, et des gens l'ont perçu, et ont aimé ce que tu as à dire. C'est ça, moi, que je vois avec ce prix. Et peut-être communautaire, peut-être très ciblé, mais je vais absolument pas le refuser. Je vais au contraire dire un grand, grand merci. et ne pas arrêter de remercier les organisateurs du prix et surtout les membres du jury, mais au-delà les lecteurs, parce que si j'avais aucun lecteur, j'aurais peut-être pas publié un deuxième ou un troisième livre.
Oui. Alors pour terminer avec Sébastien Monod, et c'est pas fini puisque on va citer quand même vos plus récents ouvrages. Mais je voulais savoir, parce que au début vous avez évoqué votre rouennité. Vous êtes de Rouen, hein, et vous, oui, êtes, et notamment, et vous travaillez beaucoup. Je veux dire, vous avez indépendamment de votre travail d'écrivain aussi des activités sur Rouen, des activités culturelles. Notamment, vous travaillez pour le Festival du Livre de Jeunesse de Rouen.
Oui.
Et moi, j'avais une question, alors je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus, mais qui me taraudait un petit peu quand j'entends livre de jeunesse. Je voulais savoir si vous avez entendu parler ou si vous connaissez ces livres de jeunesse maintenant qui se développent, je dirais, qui évoquent les familles homoparentales. Est-ce que vous pensiez du concept de présenter des enfants élevés par des familles homoparentales?
Oui, c'est quelque chose de relativement récent. Hein. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était complètement inconcevable de trouver un livre comme ça, mais il y a des maisons d'édition, il y a des éditeurs qui osent être novateurs, et puis c'est même pas être novateur, c'est être dans l'air du temps, dans le vrai sens de l'expression, être avec son temps. Je pense à l'école des loisirs, hein, qui a publié des livres, mais c'est vrai que du coup, travaillant dans pour ce festival, en relation avec la jeunesse, avec mes thématiques que j'aime aborder, j'ai vu passer des livres et j'ai trouvé ça plutôt encourageant. Je parlais de l'école des loisirs, ils ont édité un album qui s'appelle Jean à deux mamans. Et en recherchant un peu plus, en faisant une recherche, on voit que c'est pas un livre isolé. Il y a J'ai deux papas, cette fois-ci chez Hatier. Il y a Tango à deux papas et pourquoi pas. J'ai vu ça, par exemple, je crois que c'est les éditions Le Baron Perché qui... Et de plus en plus se pose la question, une question de société, pourquoi, encore une fois, cacher une réalité? Elle existe, hein, les familles homoparentales sont nombreuses et maintenant vivent au grand jour, surtout depuis l'adoption de la loi du mariage pour tous. Donc, pourquoi la littérature ne s'en emparerait pas de ce sujet? Donc là, j'ai cité plutôt des albums jeunesse, hein, mais c'est très bien parce que ça touche les petits à partir de 2-3 ans, et d'une façon un peu amusante ou joyeuse ou ouverte, aborde une question plus difficile.
Très bien. Alors, pour terminer notre interview, rappelez-nous donc les derniers livres et où vous les avez publiés, comment on peut se les procurer. Vous êtes numérisé aussi?
Oui.
D'accord.
Une bonne partie de mes livres se trouve en version numérique, les trois quarts, et on peut les trouver sur toutes les plateformes de téléchargement légales, toutes. Et donc, 2015, c'était l'année de parution de J'étais vivant et je ne le savais pas, aux éditions TG.
Joli titre.
Texte gay.
Très belle couverture de livre aussi. Pardon.
Oui, c'est un retour que j'ai eu et qui a peut-être aidé
à la vente.
À la vente. il y a eu une nouvelle édition de mon roman de 2014, La mère et les jours. La mère comme la maman. Et qui avec une nouvelle couverture pour essayer de toucher aussi un peu plus de monde, pour toucher des jeunes qui avaient peut-être pas osé ouvrir ce livre. Donc voilà, c'est encore des livres qui sont d'actualité, qu'on peut encore trouver, pas forcément si facilement que ça, puisque sont pas forcément des grands éditeurs qui me publient. Donc la diffusion est un peu restreinte, mais on arrive par mon intermédiaire via les réseaux sociaux, on peut me contacter sans problème, j'accepte facilement. Encore quelques amis sur Facebook, par exemple, avec mon nom, Sébastien Monod, ou via mon site web, mais aussi via le site des éditeurs.
Alors on précise MONOD, hein, parce que sinon on tombe sur l'adjoint de la culture d'un village dans la Sarthe, donc c'est...
Ah, ça c'est voilà. Dommage.
En tout cas,
la librairie, les mots à la bouche à Paris, ouais. les propose tous à chaque fois, et on peut le trouver aussi sur leur site, par correspondance. Donc bon, voilà, il y a quand même, malgré la diffusion restreinte, des possibilités, fort heureusement, pour les trouver. Et puis en numérique, je répète, là c'est très facile, encore plus facile.
Je vais tout mettre, toutes les infos, je vais y arriver sur la page Facebook,
sur Facebook oui.
De l'émission.
Avec plaisir.
Et merci d'avoir accepté donc notre invitation. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices auront envie donc
bien
de
sûr.
Vous découvrir pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore.
Je l'espère. Merci à vous, hein, en tout cas.
Merci. Et bon, quel temps fait-il à Rouen? Je rappelle, il est de Rouen, Jeffrey Jordan. C'est Rouen,
oui,
la ville
d'Orléans.
Oui,
oui.
Bah, j'avais compris Rouen, hein, quand il a dit Rouen
oui,
tout
oui,
à l'heure.
J'ai... Voilà. Parce qu'en souvent, on pense
fallait préciser.
C'est Rouennais, Rouennais.
C'est Rouen.
Oui.
C'est au Portugal, Rouen.
Non. Et donc, au risque de conforter quelques clichés bien persistants, malheureusement, il pleut là ce soir. Et sur la Normandie.
Très bien.
Comment va Jeanne? Je plaisante. Bien, merci beaucoup, Sébastien.
C'était Jeffrey Jordan. En tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir, Sébastien.
Au revoir. Pluriel, pluriel, pluriel,
pluriel. Voilà, Sébastien Monod.
Que donc, je ne connaissais pas.
Qui a reçu le prix donc, pour toute son œuvre.
Oui.
Mais ce n'est pas le seul prix, hein, parce que le jury a décerné plusieurs prix et le grand prix du roman gay a été attribué à un livre qui s'appelle Rainbow Warriors, mm-hmm. Les guerriers de l'arc-en-ciel.
Aux éditions du Congélateur.
Aux éditions... Non, c'est au Diable Vauvert, les éditions. Et ça a été édité aussi en livre de poche, d'ailleurs. C'est Heyerdahl, hein, d'autant plus que Heyerdahl, c'est un écrivain d'origine lyonnaise. Il
d'accord.
Est né à la Croix-Rousse. Il a vécu partie de sa vie, de sa jeunesse en tout cas, aux Minguettes, à mm-hmm. Vénissieux. Et son père a été un des plus grands collectionneurs de livres de bande dessinée. De bande dessinée, qu'est-ce que je raconte? De science-fiction.
C'est un thriller.
Voilà. Alors, effectivement, Heyerdahl, c'est quelqu'un qui s'est fait un nom dans les années 90, dans la filière, je dirais, science-fiction, renouveau de la science-fiction française, parce qu'elle a été dominée jusque-là par les Américains depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies. Et Heyerdahl a fait partie de cette école de science-fiction française qui a donc dessiné le renouveau dans les années 90 de ce genre littéraire. Alors, il se trouve que Heyerdahl, en plus, malheureusement, parce que maintenant, à chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on annonce qu'il est mort. Hein, on parle beaucoup de, il y a beaucoup de nécrologie en ce moment.
Et lui,
partout.
Non.
Eh ben, si. Il est mort.
C'est pas vrai.
Si, il est mort il y a très peu de temps. Il est mort en octobre 2015. Donc, le livre, le titre, le prix du roman gay qui lui a été remis, donc pour ce livre, Rainbow Warriors.
Posthume.
Est à titre posthume, donc c'est le cas de le dire. Il est décédé effectivement en octobre à Bruxelles d'un cancer.
C'est un bel hommage.
En 2015. Alors, pourquoi Rainbow Warriors? Parce que Heyerdahl a donc... là, c'est plutôt un roman de politique fiction. Mm-hmm. Hein, et bon, pour faire le pitch très rapidement, l'idée, c'est un groupe de pression qui recrute un ancien général de l'armée américaine et une armée complète, une armée de mercenaires, une armée privée, pour renverser un dictateur en Afrique noire. Alors, il se trouve que cette armée a la particularité d'être composée uniquement de personnes LGBT.
D'accord.
Alors, voilà. Hein, ce qui est amusant, je dirais, c'est... Enfin, amusant. Le livre en lui-même, bon, n'a pas une très grande portée littéraire, je dirais. Mais ça se lit très
c'est
facilement.
C'est militant, je pense.
Oui, c'est pas péjoratif, ce que je dis du tout. Hein. C'est un livre qui se lit facilement. Mais dont l'intérêt est aussi, outre le fait donc, que ce soit des personnes LGBT, ce qui est quand même assez atypique, uniquement des personnes LGBT, hein, c'est le critère de recrutement. Outre cela, c'est que c'est un livre, par contre, qui est très bien documenté. On sent, Heyerdahl est une personne qui connaît bien le terrain.
Du journalisme, un peu.
Voilà, du journalisme, de la diplomatie internationale, des contextes géopolitiques, même si le pays africain en lui-même n'existe pas, en fait, il l'a recréé de toutes pièces.
C'est utopique.
C'est utopique. Ça ressemble quand même à beaucoup de pays qu'on pourrait connaître, quoi. Hein. Voilà, donc c'est assez intéressant, puisqu'à l'intérieur, il y a plein de péripéties. Voilà, je ne vais pas tout raconter, mais il est à lire, c'est un bon bouquin. Et puis, il y a des retournements de situation. comme tu les aimes, Jared Jordan.
J'aime bien les, retournements,
des actes,
oui.
Des actes de barbouzerie et voilà, des pressions extérieures pour faire échouer ce renversement. Parce que le dictateur en question, évidemment, est très, très homophobe. Hein. Voilà, on l'avait compris.
Ben oui, en Afrique, voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de pays encore qui restent un peu fermés.
Alors, les éditions du Frigo, bah, de toute façon, pour finir, je mettrai tous les lauréats de ce prix, du prix des prix 2015 attribués par ce jury aussi sur la page Facebook de l'émission. Les éditions du Frigo qui a eu l'idée de ce prix, alors a quelque chose de très particulier et on est encore dans la nécrologie parce qu'il n'édite que des œuvres posthumes. C'est-à-dire des écrivains qui n'ont pas été édités de leur vivant et uniquement il faut être mort. Pour être publié.
Super.
D'où le nom, les éditions du Frigo, tu vois.
Oui.
C'est la viande froide, tu connais. C'est un terme journalistique aussi, quand on parle de viande froide. Voilà, c'est un rapport à ça. Les Américains appellent les cold cases. Hein, c'est les affaires qu'on déterre, en fait, qui sont oubliées depuis longtemps. Et là, en fait, les ayants droit, les familles leur envoient des manuscrits, des documents, de personnes décédées. Alors, ce qui rien à voir avec le prix du roman gay, hein, c'est deux choses différentes. On a vu Sébastien Monod, lui, est bien vivant, puis il n'a pas été édité aux éditions du Frigo, de toute façon. Hein, c'est deux choses tout à fait différentes, mais c'est leur postulat, je dirais.
Ah, c'était pas la même chose tout à l'heure, alors.
Non, non. Ça n'a rien à voir. Il était bien vivant, tu vois.
C'était pas un enregistrement qu'on a vu par téléphone.
Ni un esprit que nous avions convoqué en faisant tourner les tables. Pas du tout. Alors, voilà. Voilà, on va...
Donc, on rappelle, Heyerdahl, voilà. Rainbow Warriors, voilà. Et Sébastien Monod pour
j'ai
toute son
œuvre. J'ai amené un exemplaire, je le lancerai tout à l'heure, et celui qui le rattrapera, l'aura.
Ah bah, voilà, mais on n'est pas nombreux, donc... On sait qui va l'attraper.
Alors, mon petit Jeffrey, tu n'es pas venu ici pour rien, puisque tu as travaillé pour nous.
Oui.
Tu t'es intéressé à l'actualité.
Oui.
L'actualité culturelle, c'est ce qu'il a dit.
Non, l'actualité en règle générale.
Ah, d'accord. Non, parce que Bernard est intervenu, je n'ai pas compris.
Oui, vous n'avez pas entendu, chers auditeurs, mais nous, on a entendu dans le casque.
C'est une voix d'outre-tombe, on est dans le...
Alors, attention. Alors,
Ah non, on va pas le passer, je suis belle. Non, parce que Jeffrey Jordan étant lui-même très belle, on va l'écouter.
C'est autosuffisant.
Surtout la radio. Alors, on va...
Alors, c'est parti.
On va écouter notre ami Jeffrey Jordan. Sinon, on n'aura pas le temps.
Ah, bon, c'est pas grave. Bernard demande le générique.
Eh ben,
tant pis,
Jeffrey,
c'est le générique de l'émission, quoi. Le jingle de l'émission. Oui. Bernard.
Pluriel gay.
Bernard.
La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Faudra qu'on se mette plus au point la prochaine fois.
Hein. C'est ça, on se préparera. Eh bien, bonjour à tous. Dans l'actualité cette semaine, l'importante manifestation des chauffeurs de taxi contre les migrants à Calais a provoqué une épaisse vague de froid en Asie, à Washington, où le Premier ministre Manuel Valls a annoncé la prolongation des 35 heures d'état d'urgence à Ouagadougou après la découverte d'une 9e planète dans notre système solaire. Cette semaine, c'était aussi la sortie du film Spotlight, qui expose l'affaire des prêtres catholiques pédophiles à l'Open d'Australie, qui opposera en finale Djokovic contre Federer, alors que la recette des crêpes nécessite encore et toujours près de 500 ans après sa découverte de mélanger œufs, farine, lait, sel et beurre en écoutant Toujours debout, la nouvelle chanson de Renault, qui a rappelé près de 20 000 véhicules à la révision. Le constructeur automobile n'aurait pas supporté la disparition de René Angélil, la reine de la pop, née lundi soir au Festival du Livre de Cuisine de Kuala Lumpur. Et puis on vient de l'apprendre, la grève des enseignants de collège et primaire continue. L'éducation nationale réclame massivement une hausse de leurs alertes à la bombe, surtout dans les lycées parisiens, face aux 5 candidats à la présidence de la FIFA qui paieront plus cher désormais les autoroutes françaises à partir du 1er février 2016. Politique maintenant avec Marine Le Pen qui annonce que le siège du Front National sera bientôt installé dans une fusillade à Avignon près d'un centre commercial, ce qui permettra de rénover le partenariat France-Afrique comme le proposait hier soir Vladimir Poutine au restaurant McDonald's Trump lors de la toute nouvelle tournée européenne de Louise Attac. Elle fait son grand retour, Miley Cyrus jouera dans la prochaine série télévisée de Woody Allen, elle y interprétera alternativement Sébastien Chabal et Zlatan Ibrahimovic au concert des Enfoirés qui, rappelons-le, soutiennent les soldes jusqu'à moins 70% sur Zalando.com. Côté automobile, le nouveau Nissan Qashqai se porte candidat à Top Chef, le célèbre programme de M6 né en mars et du signe du Bélier, et si vous l'êtes également rapidement, et bien voici votre horoscope de l'année. Amour, attention aux nuages noirs sur l'est du pays et aux chutes de température en fin d'après-midi entre Toulon et Biarritz. Il fera seulement 4 degrés au défilé Dior et 12 degrés au 15 de France. Santé, remettez-vous au sport car vous risquez de prendre de la graisse, surtout sur les hanches et autour de Sébastien Ogier qui s'offre une 4e victoire au rallye de Monte Carlo. Enfin, travail, restez détendu avec vos collègues. François Hollande devrait vous rendre visite en fin de semaine pour l'aide à l'embauche dans les PME. Et pour finir, sachez que Chantal Drova, dont personne ne connaissait l'existence jusqu'à ce soir, sera peut-être en concert exceptionnel dans la nuit de lundi à jeudi, quelque part entre l'Inde et le Portugal, un reportage poignant signé Najat Vallaud-Belkacem. À la semaine prochaine.
D'accord. Bien, alors ça, c'est un résumé très condensé de l'actualité.
Donc... C'est drôle les corrélations parfois qu'on peut trouver dans les actualités.
Ouais, ça, c'est suite à ton insomnie cette nuit.
Ah, c'est ça, hier soir. Net, ouais. J'étais pas bien, fallait...
D'accord.
Fallait
alors, évite de prendre du speed quand on est insomniaque, je te le dis. C'est toujours mieux.
Sans problème.
Bernard, tu voulais nous lancer Je suis belle. Eh ben, on va écouter Je suis belle de Kali.
Kali Fourchon.
Kali Fourchon.
C'est pas son nom de famille, Fourchon.
Et que sur mes bras les poils se hérissent. Parce que le ciel ne promet pas mieux que de l'eau comme vache qui pisse. Parce que cette nuit fut magique. Peut-être un peu grâce à toi. De tes doux mots, j'entends encore la musique. Je suis encore dans tes bras. Je me sens belle, heureuse et belle. Je me sens belle. Parce que je souris à des fantômes, et que des fantômes ont le sourire. Dans cette rue, monsieur personne ne sait pas le bon qui me déchire. Parce que la nuit est une promesse. Que peu de gens tiennent, tu as tenu la tienne. Je me sens belle. Heureuse et belle. Je me sens belle. Tu m'as donné 20 ans de plus à vivre cette nuit. J'ai dans le ventre un diamant. Je me sens belle aujourd'hui. Même s'il y a si peu de chances que je te revoie un jour. Cette nuit fut une danse et je t'aime pour toujours. Parce que ma peau était si sèche de ne pas avoir été caressée. Pendant ces 1000 années de dèche où je fus si mal aimé. Parce qu'une seule nuit m'a redonné le goût d'un souffle posé sur mes yeux d'un homme plus que tout. Je me sens belle. Heureuse et belle. Je me sens belle, heureuse et belle. Je me sens belle, heureuse
pluriel, 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 pluriel,
pluriel. Yeah. Voilà, et puis tu sais, ce soir nous avons aussi un écrivain à l'émission.
Ah bon?
Oui.
Ah, Bernard.
Eh oui,
Bernard. Oui, c'est vrai qu'il a écrit. Ouais.
Eh oui, Bernardo. Ne fais pas le cachotier, ne fais pas le timide.
Qu'est-ce que tu as écrit, Bernard?
Ses mémoires.
À part ta liste de courses.
Ah bah ça, je l'ai fait sans écriture.
Le truc nul à éditer, tu sais, une liste de courses.
Non, bah j'ai écrit un petit roman qui s'appelle Les fantômes de la rivière.
C'est joli ce titre. Ça parle de quoi?
Ça va bien dans ta vie, Bernard?
Ça va bien dans ma vie, je te remercie, oui, justement.
C'est un polar, c'est un.
Non, non, c'est
une
un
nouvelle,
roman.
Un roman.
Bah, j'ai expliqué ça à Boris, là. C'est.
À Boris. Expliquer à Boris.
Boris. Non, c'est l'histoire d'une rencontre, enfin d'une double rencontre, d'ailleurs, la première avec une jeune fille musicienne. Qui entraîne le héros du roman dans sa vie un petit peu, et là il y a le garçon dans le théâtre, il finit par découvrir son homosexualité par le biais d'un jeune ouvreur.
Encore au théâtre.
Encore on est encore au théâtre. Ouais.
Toujours au théâtre. La musique et le théâtre, c'est mon univers. Et puis s'enchaîne donc toute une histoire d'amour, une romance, enfin.
Est-ce qu'il y a du sexe, Bernard?
Gérald, il a envie de rentrer là.
On peut dire qu'il y en a, mais c'est plus c'est érotique plutôt. Ouais. Et puis plus par des comment expliquer ça.
Bah mieux c'est de le lire. Hein.
Ah, j'ai perdu le nom.
Bernard Covin. Ouais, les fantômes de la rivière.
C'est tout à fait. C'est édité. Je m'attendais à un truc d'ailleurs. Aux éditions Edi Livre, pour le dire au passage. Enfin, c'est un conte d'auteur, donc on ne le trouve pas chez Gallimard, hein. Il n'y a pas de problème.
Voilà, donc de toute façon, personne ne pourra le lire. Donc.
Non, 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 si on vient sur mon site, sur mon blog, on peut trouver le lien pour aller sur le site pour acheter le livre, pas de problème. Bon, on le trouve chez Amazon, à la Fnac, on le commande.
Ah, enfin, d'accord, voilà. On peut quand même l'acheter.
Et voilà. Puis chez Edi Livre, bien sûr, l'éditeur.
Voilà, et je sais aussi que tu écris des poésies, Bernardo. C'est un poète, un poète.
Ça, elles ne sont pas éditées, par contre. Ouais. Mais enfin, on les trouve sur mon blog.
Le blog de Bernard. Rappelle-nous l'intitulé de ton blog.
Alors, c'est covix-lyon.net.
Très bien, mon Bernardo.
C'est noté.
Merci, Bernard. Alors, mon petit Jeffrey, je ne sais pas si tu es au courant, mais actuellement, il y a un sondage.
Ah, enfin, ça peut... Pour sonder qui ?
Bah, écoute, c'est pas vraiment un sondage, en fait. Hein. Il s'agit d'une enquête plutôt de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques.
Ah.
Voilà, c'est une enquête qui est en cours, qui est en ligne sur leur site. Et il s'agit, en fait, qui est en cours depuis l'année dernière et qui se prolonge jusqu'à fin mars, qui concerne les modes de vie et de santé des LGBT. Une enquête qui se veut exhaustive pour avoir une vision plus précise des LGBT en France, la population LGBT française, leurs profils sociaux, économiques, démographiques, sanitaires, les espaces de vie, études, travail, couple, famille, la totale. D'accord. Et tout ça soutenu par les pouvoirs publics, l'INED étant une institution publique, et aussi par de nombreuses associations LGBT. Donc si tu ne l'as pas fait,
je ne l'ai pas fait, effectivement.
Tu peux aller sur le site de l'INED et remplir le questionnaire qui, évidemment, c'est sur la base du volontariat.
Anonyme.
Personne ne te met un fusil sur la tempe pour remplir. C'est anonyme, ça dure 40 minutes. Et puis si tu n'as pas le temps de passer de l'intégralité de l'enquête une seule fois, eh bien à ce moment-là, tu peux interrompre et revenir grâce à un mot de passe que tu renseignes sur le site de l'INED.
Et il faut forcément être gay ou lesbienne.
LGBT, oui, on vous dira.
Mais personne n'a dit que j'étais gay, Gérald. Pourquoi
lesbienne,
je devrais répondre?
Par contre, peut-être.
Ah, je suis peut-être lesbienne. Voilà. Ouais, ça, c'est possible.
Alors, en tout cas, c'est sur le site de l'INED jusqu'au mois de mars. Si ça peut être intéressant, je dirais. Alors, je sais pas l'intérêt que ça peut avoir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas avoir une vision, justement?
Comme ça, puis c'est un petit résumé de soi-même aussi.
Voilà,
peut-être.
Exactement. Puis comme ça permettra à l'État de construire des écoles pour les LGBT, vois, des centres sociaux,
un
des
pays
centres culturels.
Avec un système économique, voilà.
Exactement.
Gayland,
voilà. C'est sur le site de l'INED, donc www.ined.lgbt.fr. Pour ceux qui sont intéressés, je rappellerai les infos, toujours pareil, sur la page Facebook de l'émission.
C'est vrai qu'il y a une question intéressante aussi, des fois, que je me pose, alors intéressante ou plus ou moins. C'est, on dit toujours 70% de la population, enfin, c'est...
70.
Le chiffre n'est pas bon. Non, non, mais un certain pourcentage de la population...
Les hétéros sont une minorité.
Un certain pourcentage de la population ne sait pas, par exemple, qu'elle est atteinte du VIH.
Ah oui.
Mais comment ils peuvent savoir, vu que ces personnes elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont atteintes? Non, mais voilà, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser.
C'est vrai, c'est vrai.
Et peut-être que là...
Voilà, alors c'est dommage de la poser en fin d'émission, on aurait pu demander à nos auditeurs de nous envoyer leur idée à ce sujet et en débattre, effectivement. Mais ça sera l'occasion d'un débat futur, puisque l'émission touchant à sa fin, et nous allons devoir nous séparer.
On va se quitter.
Les larmes dans les yeux, d'habitude.
Oui.
Les yeux humectés, mon rimel va couler. Et donc, je voulais signaler aussi, quand même, nous avons reçu le cœur Oméga de Chœur Oméga, le chœur lyonnais, un nouvel ensemble vocal lyonnais, exclusivement masculin.
En plus de À Voix et À Vapeur.
En plus.
D'accord.
Voilà. Ils se sont formés l'année dernière, je vais y arriver. Et on les avait comme invités il y a deux semaines et je vais rappeler leur petit événement.
Ah oui.
Parce qu'ils vont se présenter au public, vont faire leur première présentation publique, représentation au centre LGBTI de Lyon. 19 rue des Capucins.
Rue des Capucins, oui.
Voilà. À partir de 21h, vendredi soir, le 29 janvier. Okay. Alors, il faut savoir qu'ils recrutent encore. Donc, c'est l'occasion de les découvrir, d'aller au centre LGBT, de les découvrir. Et peut-être de postuler si nos auditeurs ont envie de pousser la chantonnette. La chansonnette.
Il paraît que c'est très bien, en plus.
Oui. Oui.
Non, mais oui, si. Le Chœur Oméga. Super. Mmh. Ouais. Puis même À Voix et À Vapeur, j'imagine que c'est le même concept, mais il paraît que c'est très bien.
Alors, le Chœur Oméga, oui, c'est certainement très bien. Je ne vais pas dire le contraire. Attendons de les avoir écoutés.
Oui, non, mais
ils mettent beaucoup de cœur, c'est le cas de le dire, en tout cas, ce qu'ils font. On les a eus il y a deux semaines. Mais par contre, leur registre est un peu différent de À Voix et À Vapeur. C'est
d'accord.
Beaucoup plus axé sur le contemporain, la variété, etc. Ce qui fait qu'on aura, ce qui est bien aussi, deux ensembles vocaux avec des thématiques, des répertoires un peu différents. Donc il y en aura pour tous les goûts. Donc c'est le vendredi 29 janvier à 21h au centre LGBT, 19 rue des Capucins, sur les pentes de la Croix-Rousse.
Oui.
J'y serai parce qu'il y a à boire.
Ah, bah, peut-être que j'y serai aussi, alors on ira ensemble, Gérald.
Absolument. Bernard aussi, il y a de l'alcool. Tu y seras. Boris, je ne sais pas si nous nous croiserons. Et puis, ce que je raconte, Jeffrey,
oui.
Avant de nous séparer,
oui.
Je voulais parler de toi aussi.
Oui, parce qu'alors, vendredi 29, on va voir le Chœur Oméga.
Voilà.
Mais le samedi 30, vous pouvez venir à 21h30 nous voir sur scène. 21h30, c'est au Tonton Flingueur, c'est juste en dessous du centre LGBTI. C'est au Tonton Flingueur, voilà, à 21h30.
D'accord.
Et j'aurai toujours mon violon Jean-Jacques.
Oui, le fameux
une
violon.
Très belle histoire d'amour humoristique à découvrir.
Et Jean-Jacques est dans le coffre de ma voiture, d'ailleurs.
C'est vrai, on va aller le sauver, là, Bichette. Il est enfermé.
Et puis tu fais de la télé aussi.
Oui, télé maintenant, oui, depuis
MCE,
quelques
ma chaîne
mois.
Étudiante.
Ouais.
T'es sur quel canal?
Alors ça dépend en fait des box.
Oui.
Voilà, sinon c'est sur internet, mcetv.fr. Et puis c'est tous les mardis, sinon à la télévision, à 20h45 sur MCE. Voilà, très
occasion de te voir donc. Donc plus seulement de t'entendre à la radio.
Voilà.
Pour ceux qui ne t'auraient pas vu en spectacle.
C'est ça.
Très bien. Bien, nous allons nous quitter maintenant.
Et on va rendre l'antenne.
On va rendre l'antenne à Bernardo, enfin à tout le monde.
Merci
enfin,
à tous.
À ceux qui nous suivent, non, il n'y a plus personne après nous.
Merci.
Enfin, ça vient. Il y a une autre émission un petit peu plus tard qui
d'accord.
vient après nous. Mais Léa n'est plus après nous. Avant, il y avait Léa.
La voyante.
La voyante est partie.
D'accord.
Voilà.
Elle est partie.
Elle est partie. Et du coup.
C'est la partante.
C'est la partante. Merci Bernard, merci Boris, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés jusqu'au bout.
Très belle soirée.
On va écouter une chanson de Désirless.
Ah bah tiens, on finit, finit en beauté.
Ouais.
Mais salut Gérald.
Une chanson récente de Désirless.
Au revoir Gérald.
Petit Jeffrey.
Et comme l'espérance est violente. Sous le pont Mirabeau coule la Seine.